La fabrication des processeurs M2 à l'arrêt volontairement pendant 2 mois parce que les nouveaux MacBooks se vendent moins bien que prévu, c'est l'info de la semaine.
Je crois pas qu'on ait entendu parler d'un arrêt de production des puces M1. Et comme par hasard, le MacBook Air M1 est encore au catalogue. Donc là, il y a un problème.
L'urgence à sortir le M3 n'en devient que plus grande à 2 mois jour pour jour de la keynote de la WWDC 2023. 18 pages dans le GQ américain consacré à Tim Cook. Entre interview et portrait, le CEO d'Apple sort de son extrême discrétion et il reconnaît l'erreur initiale d'Apple à propos de la réalité augmentée.
Ça ouvre des perspectives, mais à quelle date, dans quel délai, ça là-dessus, évidemment, Tim Cook se prononcera pas.
Tim Cook qui relance l'hypothèse Apple Glass, sans les nommer. Préparez-vous à changer d'habitude avec les iPhone 15 Pro et Pro Max. Le bouton action de l'Apple Watch Ultra est annoncé sur les prochains smartphones Pro d'Apple.
On sent quand même une sorte de volonté globale, il n'y a pas que chez Apple, d'avoir des boutons d'abord moins mécaniques parce que c'est des sources de panne et éventuellement des sources d'entrée d'eau. Et puis d'avoir quelque chose qui soit peut-être pas monofonction.
Un bouton intelligent géré par son propre processeur. Alors pour quel bénéfice? On va en discuter. Suite du bilan du quatrième trimestre 2022, les Mac et les iPads s'en sont plutôt moins mal sortis que les autres.
C'est un peu comme si les gens s'étaient offerts du corned beef ou de la dinde en gelée au lieu de s'acheter des ordinateurs à Noël.
C'est à suivre dans la mise au point de Gilles Dounès. Et puis le bonus exclusif pour notre communauté Patreon. Cette semaine, quel intérêt à avoir encore un appareil photo en 2023?
Souvent aujourd'hui les gens disent « Ah, pff, l'appareil photo ça sert plus à rien, aujourd'hui de toute façon les téléphones font bien mieux ». Et je me suis dit « Tiens finalement, pourquoi est-ce que ne pas lancer ce débat-là avec mes chers copains d'iWeek ? Mais est-ce que vous continuez à utiliser un appareil photo ? Est-ce que vous voyez un usage, vous, à un appareil photo par rapport à votre téléphone au quotidien ou dans des cas bien particuliers ?»
Un bonus à savourer sur patreon.com/iWeek. Mardi 4 avril 2023, bonsoir, bonjour à chacune et chacun d'entre vous. Je viens de souhaiter bonne chance à la team pour cet épisode 131 d'iWeek, la semaine Apple. Il est 17h30 et nous venons de lancer l'enregistrement. Quand vous l'écouterez, il restera à peu de choses près, 2 mois pile d'ici la keynote de la WWDC 2023. Le 5 juin 2023, ce jour choisi par Apple, selon les mots de Mark Gurman de Bloomberg, comme l'un des plus importants de son histoire avec un grand H. Ce devrait être le grand jour pour le casque Reality de réalité étendue, pour son système d'exploitation XROS et pour la présentation de l'écosystème. Mais dans cette interview à GQ, sur laquelle on va revenir dans quelques minutes, Tim Cook ravive l'espoir autour d'un autre projet qu'on croyait presque définitivement enterré, les Apple Glass. Et ça, c'est bon ça, n'est-ce pas François Le Truédic ?
Ah bah oui, pendant qu'il y en a qui sont occupés à lire le Playboy français, d'autres lisent le GQ américain et c'est sans doute beaucoup beaucoup plus judicieux. C'est vrai que voilà, autour de cette table virtuelle ce soir, je suis le seul à porter des lunettes. Mais c'est vrai que j'ai eu l'occasion de le dire un certain nombre de fois. J'aspire énormément à ces Apple Glasses et je vais commencer à provisionner parce qu'à mon avis, il va falloir mettre un joli petit billet quand ça sortira.
Bon, et la double lecture de Playboy et de GQ ne m'étonne pas de toi, senior professeur. Welcome back dans iWeek, mon cher François. Salut Gilles Dounès.
Salut Benjamin Vincent. Bonjour les amis.
Comment ça va?
Oh, ça va, oui. Tout le monde a l'air bien en forme.
Bah ouais, t'es plutôt Playboy ou GQ, toi?
Oh, GQ, Playboy, j'aimais pas trop le soft focus des photos qui étaient utilisées par les photographes. Je trouvais ça un peu surfait.
Ouais, c'est ça.
Dans Village, on est vite passé à l'exploration in situ.
Bon, toi Gilles, on va te retrouver tout à l'heure pour des stats, c'est très sérieux, qui vont mériter ton éclairage. Alors qu'on est en train de justifier l'arrêt de la production des puces M2 en janvier-février par des ventes trop faibles de nouveaux MacBook, mais en fait Apple s'en tire pas trop mal sur la fin de l'année.
Non, ils sont un peu moins catastrophiques que le reste de l'industrie. Quand je me regarde, je me désole. Quand je me compare, je me console. C'est un petit peu l'esprit de cette année. Mais ils auraient tort de s'endormir sur des pseudo-lauriers qui commencent un peu à faner.
Ce sera tout à l'heure, Gilles, avec ta mise au point. Et enfin, je te salue, toi, Fabrice Neumann.
Salut mon capitaine, salut à tous.
Ah, quel démarrage. Bon, toi, mentor en technologie, consultant pour vrais gens, comme tu dis, et pour entreprises, tout ça via ton site internet notamment, on peut le rappeler.
Notamment, pro-fusion-conseil.fr. Oui, les vrais gens qui ont des fois besoin d'installer des imprimantes, par exemple, juste avant l'enregistrement, j'ai aidé quelqu'un à installer une imprimante à distance. Et alors, il a fallu que je me calme un peu après, parce que je trouve ça complètement fou. La difficulté d'installer une imprimante encore en 2023, ça aussi, ça pourrait faire l'objet d'un bonus sur lequel on passerait des heures. C'est hallucinant comment c'est compliqué. Je comprends pas.
Ça l'est encore plus avec le nouveau panneau de préférence système des réglages système de Ventura qui est vraiment une vraie daube. Il faudrait qu'on fasse un bonus là-dessus un jour aussi, je pense.
Eh ben, on va le faire très très vite ce bonus. Sur l'installation d'une imprimante sous Ventura, c'est promis. Alors quelques rappels importants. D'abord, la version vidéo de cet épisode sera disponible dès jeudi, sans pub, sur patreon.com/week pour notre communauté Patreon. En la rejoignant, vous ferez aussi une bonne action, puisque en nous soutenant financièrement, vous aidez aussi l'aventure iWeek à continuer et à se développer. À ce propos, un immense merci à nos nouveaux soutiens. Merci à Lou, à Vince, à Kibaki et à Julien Delrieux. Ensuite, la version audio de ce podcast est disponible sur toutes les plateformes gratuitement et donc profitez-en pour vous abonner en cliquant sur le bouton suivre. Vous ne raterez plus aucun épisode et on vous conseille d'en profiter pour suivre aussi la quotidienne iWeek que vous recevrez chaque jour de la semaine sans bouger le petit doigt. Enfin, on attend vos réactions, vos questions sur Twitter et sur Mastodon avec le hashtag iWeekLSA. Dans quelques minutes, interview avec Tim Cook à l'Apple Park entre les jardins et la cafette du troisième étage avant les secrets d'un éventuel bouton action sur les iPhone 15 Pro et Pro Max. Mais tout d'abord, l'urgence M3 et si les MacBook Air et Pro M2 se vendaient beaucoup moins bien que prévu. A tout de suite. Janvier, production zéro. Février, production zéro. On parle de la puce M2 et de niveau de vente pour les nouveaux MacBook, MacBook Pro, MacBook Air M2, qui ont très certainement contraint Apple à dire stop à TSMC, 2 mois d'arrêt pour une production qui a certes repris en mars, selon les informations de Zielek, mais à 50% seulement. Alors que se passe-t-il avec ce M2 et combien de temps Apple peut-elle attendre avant d'annoncer le M3 et les premiers Mac qui en bénéficieront? Je me tourne tout de suite vers vous, la team. Moi, je suis tombé à la renverse en lisant qu'il y a eu 2 mois d'arrêt. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Moi, j'ai la réponse, mais il va falloir attendre la fin de l'émission. C'est ma conclusion.
Alors, on retombera sur nos pattes avec toi tout à l'heure, Gilles. Non, soyons sérieux, Fabrice, François.
On en avait parlé dans la quotidienne. Il y a un truc que ce soit M2 et puis après potentiellement M3, mais en tout cas, les M2 se sont accompagnés d'une augmentation des prix. Hein, les nouvelles machines équipées de M2 sont plus chères qu'avant. Et globalement, les MacBook, les MacBook Air sont des machines qui ont beaucoup de succès, mais parce que, me semble-t-il, le MacBook Air est une machine, jusque-là, était une machine abordable. Et il y a, je crois pas qu'on ait entendu parler d'un arrêt de production des puces M1. Et comme par hasard, le MacBook Air M1 est encore au catalogue et il coûte 1 000 euros. Ou 1 100 euros, alors que le MacBook Air M2 coûte 1 300, 1 400, 1 500, et on peut monter très très vite. Donc là, il y a un problème. Je pense que l'augmentation des prix qu'on a vécu, nous, en Europe et dans d'autres parties du monde, et pas forcément aux États-Unis à machine égale, fait qu'il y a quand même un problème de marché quand même. Et le MacBook Air M2 aux États-Unis est plus cher que le MacBook Air M1 et c'est donc pas un produit d'entrée de gamme, c'est normal qu'il se vende moins.
Ouais. François, pour toi, c'est un problème de prix ou est-ce que c'est un problème de finalement de gains pas si énorme que ça entre le M1 et le M2.
Bah, je rejoins complètement Fabrice. C'est vrai que quand on voit l'augmentation des prix aujourd'hui, même si on a eu l'occasion de l'évoquer, le refurb, c'est pas toujours la bonne solution. Mais c'est vrai que quand on voit aujourd'hui le prix, par exemple, d'un MacBook Pro M1 Pro ou M1 Max sur le refurb et le prix d'un MacBook Pro M2 au catalogue en neuf, il y a quand même un gros, gros delta. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui, effectivement, se dirige plutôt vers l'ancienne génération, parce que bah, le gap, il est pas énorme non plus. Puis je pense qu'il y a une troisième raison même du coup, c'est aussi qu'il y a eu un gros, gros renouvellement à la sortie des MacBook M1, des premiers Mac M1, et peut-être que les gens aussi vont peut-être changer moins régulièrement. On sait très bien que le cycle de renouvellement d'un Mac, c'est pas le cycle de renouvellement d'un iPhone. Je pense qu'on est plutôt du côté du recycle d'iPad, et donc du coup, le renouvellement se fera pas hyper régulièrement. Moi, il n'y a rien qui me choque là-dedans, mais ce qui est sûr, c'est que sur cette augmentation de prix fait que beaucoup de gens qui peut-être habituellement revendaient leur ancien modèle et en achetaient un nouveau, bah là, même en revendant l'ancien modèle, il y a quand même un gros, gros gap, quoi. Donc, c'est vraiment pas surprenant. Et on évoque quand même énormément l'arrivée de M3, sans doute peut-être présentée à la WWDC. Pour moi, la génération M2, ça aura vraiment été une génération de transition. Et pour moi, la seule machine intéressante au catalogue, c'est le MacBook Air. Mais comme l'a dit Fabrice, le MacBook Air M2, il vaut quand même 1500 balles, quoi. Et c'est vrai que moi, aujourd'hui, je conseille aux gens d'acheter des MacBook Air M1, qui sont des très, très bonnes machines, parce que le gap de puissance n'est pas énorme. Le gap d'écran non plus. Donc voilà, aujourd'hui, pourquoi aller mettre 1500 balles dans un ordi alors qu'on peut avoir un MacBook Air à 1000 euros, quoi.
Ouais, alors je vous raconte une petite histoire perso marrante. Ma chérie voulait changer son MacBook Air 11 pouces d'il y a 11 ans.
qui marchait toujours,
mais c'est vrai qu'il commençait un petit peu à traîner la patte. Et au moment du début des promos là, sur les MacBook Air M1 et M2, je lui ai dit à quel point il me semblait que le MacBook Air M1 avec la promo de les 200 euros de remise était vraiment une super affaire. Elle a beaucoup hésité. Elle est un peu sur le budget, elle voulait faire gaffe, quoi. Et au final, elle a quand même pris le MacBook Air M2. Et elle en est hyper contente. Parce que c'est vraiment une très très bonne bécane. Mais c'est vrai que c'est un peu plus de 1500 euros. Elle a pris un tout petit peu de stockage en plus que le modèle par défaut, enfin le modèle de base. Et voilà, ça fait tout de suite 230 balles de plus. Et donc, donc voilà, donc effectivement, il y a des arbitrages qui sont sans doute faits sur des budgets vraiment restreints en faveur du M1. Gilles, est-ce que tu t'attendais pour le coup à ce que la production des puces M2 soit à l'arrêt pendant les deux premiers mois de l'année ?
Honnêtement, non, mais il y a deux choses. Alors il y a tout ce que mes estimés, affectionnés camarades ont dit, hein, sur le budget, la longévité, l'allongement des cycles de renouvellement. Mais il y a également le fait que Apple avait commandé sûrement pas mal de puces M2 pour les MacBook Pro, qui ne sont pas sortis au quatrième trimestre 2022, mais qui sont sortis au premier trimestre 2023. Du coup, il a fallu purger les canaux de distribution de tous ces MacBook Pro M2 qui n'étaient pas là pour le trimestre de Noël. Il y a les deux volets, puisque le MacBook Pro est quelque chose qui se vend quand même pas mal, et ils n'ont pas pu les écouler en temps et en heure, donc ils ont vécu sur leur stock.
Ouais. Alors, qu'est-ce que ça va avoir comme conséquence, selon vous, sur le calendrier, sur la suite de l'année ? On se posait déjà la question ces dernières semaines de l'urgence à sortir le M3, notamment parce que de nouvelles machines, de nouveaux produits en dépendent directement. Est-ce que là, ça ne met pas un coup de pression supplémentaire ? Parce que ça conforte effectivement ton idée, François, que le M2 est un processeur de transition, quoi.
Mais ça va. Le M1 va sortir tranquillement de la gamme, et le M2 va prendre sa place au niveau tarifaire, et on va rouler sur le M3 gentiment. Il y aura juste un petit.
Ouais, mais là-dessus, on est d'accord, Gilles. On est d'accord là-dessus. Non, non, mais sur l'évolution, on est d'accord. Mais c'est sur l'urgence et sur le calendrier que je voudrais t'entendre. Parce qu'on sait que le M3, ça veut aussi dire du 3 nanomètres. On sait que c'est une technologie qui est frémissante, mais qui a son début. Intel est loin de réussir à les produire en masse. TSMC vient de commencer. Tout ça est quand même...
Il n'y a pas d'urgence.
C'est chaud, quoi. Il n'y a pas d'urgence pour ça.
Non. La concurrence est aux fraises, commence à peine à s'organiser vis-à-vis du... Ça tombe bien, c'est la saison, mais il commence à peine à s'organiser vis-à-vis du M1. Donc, il y a un petit peu d'avance. Quand ils vont arriver, un peu comme dans la course en demi-fond, hein, le poursuivant, on laisse revenir le poursuivant un peu et il se dit, bon, ça y est, et puis paf, tu places une accélération et tu lui casses les pattes. C'est exactement ce qui va se produire avec le M3.
Ah, tu vois, je ne peux pas être d'accord avec toi. Apple vient de sortir un nouveau processeur, c'est le M2. Janvier-février, la production est à l'arrêt. C'est quand même un problème.
Il y a eu un problème de calendrier sur ce trimestre hyper important qui est le trimestre de Noël. Ça s'est joué à quelques semaines, mais... je veux dire, on est sur une gamme de produits qui a 20 ans, 30 ans, 40 ans. Là, Tim Cook, on va en parler tout à l'heure, joue l'avenir de la société, enfin, le next big thing de la société sur la réalité augmentée et les lunettes. Donc, on n'est pas à quelques semaines près pour... un membre particulier d'une famille de processeurs qui, de toute façon, a vocation à se diversifier. Le Mac est important pour nous, vieux boomers qui avons connu l'explosion de l'informatique dans nos jeunes années. Maintenant, c'est l'avenir, c'est l'électronique et même l'informatique à porter sur soi. Ouais. C'est important pour Apple, mais ce n'est pas le plus important.
François, il y a le feu quand même un peu ou pas?
Est-ce que Tim Cook a
le temps comme ça de sortir son M3, un peu en mode, en mode c'est les vacances d'été quoi?
Je rejoins Gilles sur une chose, dans le sens où, effectivement, je pense que c'est peut-être pas actuellement la priorité d'Apple. On sent qu'il y a un coup d'accélérateur qui est sans doute mis du côté de la réalité augmentée, du fameux casque et potentiellement de ses nouvelles lunettes. Maintenant, faut pas oublier que le Mac aujourd'hui, c'est quand même pas non plus le chiffre d'affaires le plus important. Mais quand même, c'est quand même historiquement ce qui a permis à Apple d'exister. Et je pense clairement que on a tous eu un effet waouh quand les Mac M1 sont sortis. Mais là, on est tous en train d'avoir un peu le contre-coup. Et surtout, pour moi, le vrai problème, on le répète, c'est le tarif. Ce sont vraiment devenus des machines qui sont très chères, qui sont hors de prix. Tu le disais, hein, tu veux passer de 256 à 512 gigas disque dur, du coup ça te coûte quand même plus de 200€. Donc moi je pense vraiment qu'une grosse partie du problème c'est vraiment les tarifs, et sans ça il y a eu une telle inflation entre les M2 par rapport au prix des M1 que aujourd'hui je pense qu'il y a pas mal de clients. Moi je l'avais dit à l'époque, hein, quand j'ai acheté mon MacBook Pro M1, j'ai acheté du M1 parce que le M2 était trop cher clairement, quoi. Et ouais, je pense que le problème il vient vraiment de là, c'est le tarif.
Fabrice, sur l'urgence du M3 ou pas, et sur peut-être une indication peut-être pour Apple de revoir ses tarifs peut-être un peu à la baisse, dès que ce sera possible en tout cas.
Avec M3 ou pas, qu'ils puissent revoir les prix à la baisse, je pense que ce serait très bien. Je suis assez intéressé par ce qu'a dit Gilles. C'est frappé au coin du bon sens de se rappeler qu'effectivement les MacBook Pro ont eu un peu de retard à l'allumage en sortie. Ils ont choisi de pas le sortir, donc ils avaient sûrement un peu de stock. Donc ce qui expliquerait en partie, parce que c'est quand même rare d'entendre et de penser que Apple et Tim Cook en particulier peut s'être trompé sur la chaîne d'approvisionnement, puisque c'est quand même ça sa grande spécialité. Mais on est encore potentiellement sur une sorte de contre-coup formidable de la pandémie, notamment. Et on voit ça aussi dans les résultats de vente de quelques catégories de machines que ce soit. Il y a eu une grande vague d'équipements pendant la pandémie, et puis maintenant tout le monde est équipé, quoi. Plus le fait que donc les machines durent plus longtemps, et alors franchement un M1 ça va durer encore très longtemps, donc il y a effectivement en termes de puissance il y a pas d'urgence. D'un point de vue personnel, moi ça me réjouit un peu, c'est-à-dire que les machines durent plus longtemps, moi je ne rêve que de ça, hein. Y a l'attrait des nouvelles technologies, c'est évident, mais en même temps, que des machines durent plus longtemps, je pense que Apple y réfléchit aussi, hein, c'est quand même pas pour rien, ils font des machines quand même qui tombent pas en miettes au bout de 2 ans, la preuve pour le MacBook Air 11 pouces, le MacBook Air 11 pouces, la vraie problématique, à part un peu de puissance soit, mais c'est qu'il se met plus à jour, quoi, pour des bonnes raisons d'ailleurs, au bout de 11 ans on peut comprendre, mais c'est des machines qui fonctionnent vraiment longtemps, donc le seul truc un peu en termes d'anecdote, et encore rappelons aussi qu'il y en a qui attendent le M3 malgré tout, donc ce serait une catégorie à considérer pour Apple, comme Ellie, qui a beaucoup attendu, qui finalement n'a pas pris de M1, et puis voyant que le M2 finalement c'était pas tellement mieux que ça, il a décidé d'attendre le M3. Donc c'est vrai que en termes de vente et de marché, potentiellement il pourrait y avoir, là ce serait une justification de qu'il faut qu'il se presse un peu, un vrai boom pour s'adresser à ces gens-là qui sont encore sur des Mac Intel et qui attendent patiemment le M3 pour dire allez, là je vais y aller.
Voilà, donc
moi aussi
M3...
je suis dans ce cas.
Ouais, toi aussi, Gilles. Voilà, donc le M3, peut-être dans 2 mois à la WWDC 2023, mais ce n'est pas sûr du tout non plus. Hein. On verra, on a encore quelques semaines à attendre. On se retrouve dans un instant avec cette interview portrait événement de Tim Cook dans JQ. À tout de suite. Tim Cook, l'homme qui façonne l'avenir d'Apple, c'est le titre de cet entretien portrait exceptionnel à découvrir dans le numéro daté avril-mai 2023 du GQ américain, 18 pages sur le CEO d'Apple qui a fait mentir les plus sceptiques au moment de la relève après la mort de Steve Jobs et qui a propulsé Apple depuis un peu plus de 11 ans vers les sommets. Alors, plusieurs passages vraiment passionnants, hein, sur lesquels on va revenir, y compris l'absence totale de toute mention autour de la voiture de demain et donc de l'Apple Car. Moi, ce qui m'a marqué, c'est l'aveu de Tim Cook à propos de la réalité augmentée. Au départ, Apple n'y a pas cru et c'était une erreur qu'il reconnaît aujourd'hui. Et ça, évidemment, à 2 mois de la présentation probable du casque Apple, ça semble presque indispensable. Mais au-delà de cette actualité quasi immédiate, ça ouvre à nouveau des perspectives. Quand on pense aux futurs Apple Glass, on les croyait presque enterrés. Et là, elles reviennent de manière presque explicite après avoir évoqué l'échec des Google Glass qui ont sans doute pas mal refroidi Apple à l'époque. Est-ce qu'on peut peut-être revenir déjà sur ce point sur la tribune que ça donne à Tim Cook aussi pour préparer les esprits à ce qui va peut-être se passer dans 2 mois, Fabrice.
C'est bien organisé chez Apple quand même, hein. Ils sont trop forts parce que GQ et tous les autres magazines du monde doivent demander une interview à Tim Cook toutes les semaines. S'il vous plaît, monsieur, maintenant, est-ce qu'on peut maintenant, jusqu'à ce que donc le grand seigneur descende de son piédestal en disant bah oui, c'est maintenant, ça m'arrange là. Donc parce que c'est quand même bien organisé tout ça. Je voudrais tempérer un petit peu le fait que c'était une erreur. Il le dit, hein, cela dit, en citant aussi Steve Jobs, en disant qu'il ne faut pas rester inscrit dans ce qu'on pensait, sur ce dont on était sûr avant, etc. Ça, c'est très bien, revenir et réfléchir un peu sur soi. Cela dit, je voudrais rappeler que Tim Cook a toujours parlé, ça fait des années qu'il parle des réalités augmentées.
Dès le
avec
début,
enthousiasme, avec enthousiasme.
Avec enthousiasme. Et dès le début, on parlait, quand on lui parlait de casque de réalité virtuelle, il disait ouais, mais il faut pas jamais oublier la réalité augmentée. Moi, je pense plus à la réalité augmentée. Et ce qui veut pas forcément dire les Apple Glass d'ailleurs, parce que en termes de technologie, on en a déjà parlé, hein, juste des lunettes classiques comme en porte ce soir François pour les auditeurs qui n'auraient pas la chance d'avoir la couleur. Voilà, c'est ça, on n'a pas la techno pour faire comme dans les films avec des choses qui s'inscrivent sur les verres en surimpression. Mais la réalité augmentée, ça peut se faire aussi avec un casque. Parce qu'il y a des caméras dedans, dehors, etc., etc. Et ça, il l'a quand même toujours dit. Alors donc, il est en train, cela dit, voilà, probablement de préparer un peu les esprits. Voilà, je pense que ce qu'on peut dire, c'est que ça a l'air de confirmer qu'il va y avoir quelque chose autour de la réalité étendue. On a plus beaucoup de doutes, mais voilà, la campagne de préparation à ça a bien commencé, quoi.
François. Bon, il est question des Google Glass hein, dans l'article de GQ et c'est le moment juste après lequel Tim Cook embraye pour dire justement que, enfin, en gros, sa perception de ce type de produit a évolué. Ça ouvre des perspectives. On croyait que c'était foutu quand même.
Ouais, alors après, comme on l'a souvent dit, ça ouvre des perspectives, mais à quelle date, dans quel délai, ça là-dessus, évidemment, Tim Cook ne se prononcera pas. Mais je rejoins Fabrice, le timing est trop parfait pour que ce soit une coïncidence. Tout est mesuré, tout est millimétré chez Apple, et donc le fait qu'ils fassent ces sorties-là, je pense que ça a été volontairement fait de cette manière-là, juste pour faire une petite piqûre à 2 mois de la WWDC, où Apple va vraisemblablement annoncer des choses de ce côté-là. Moi, je rejoins Tim Cook. Clairement, les casques, c'est pas le truc qui me botte le plus. L'aspect réalité augmentée, pour moi, dans plein de domaines, ça apporte un vrai plus, et pas uniquement d'un point de vue, voilà, j'ai mes notifications sur d'un point de vue histoire, d'un point de vue pour le médical, pour plein de trucs. Et c'est vrai que Google, je pense, était précurseur de ce point de vue-là, mais bah, il n'y a pas eu d'application. Et on le redit souvent, hein, mais Apple a la faculté de sortir la petite chose en plus qui va faire qu'une nouvelle techno va fonctionner. Et je pense que c'est là-dessus qu'ils sont vraiment attendus au tournant, et c'est peut-être aussi pour ça que ça met autant de temps à venir, quoi. C'est qu'il faut vraiment trouver l'angle d'attaque pour pas se planter.
Gilles, est-ce que du coup tu crois à nouveau à la perspective de ces lunettes d'ici 2-3 ans probablement ?
Oh, mais j'ai jamais abandonné l'idée. La seule question qui se posait, c'était l'échéance par rapport et la faisabilité par rapport aux composants qui étaient disponibles ou pas, et sur lesquels on pouvait s'appuyer ou pas. Je voulais revenir sur ce qu'avait dit Fabrice et qu'a appuyé François. Apple a conscience que le temps d'attention médiatique est extrêmement rare et cher. Donc, il ne le gaspille pas, il l'utilise avec extrêmement de parcimonie et vraiment à coup sûr. Et j'ai regardé quelle était la dernière fois que le journaliste de GQ avait interviewé Tim Cook, et c'était il y a exactement 2 ans, un peu plus, et c'était au moment où Apple partait en croisade contre l'utilisation à tort et à travers des données personnelles des utilisateurs, en appuyant sur le fait que c'était extrêmement important que ça soit préservé et que ça ne pouvait pas être jeté aux quatre vents. Donc, y a vraiment un canal important là et qui a été choisi.
C'est marrant d'ailleurs parce que on a l'impression que le journaliste qui fait l'interview vit un moment assez unique avec Tim Cook. À la fois, il se balade au cœur de l'Apple Park. Après, il continue l'interview à la cafétéria du 3e étage. Et puis tout à coup, l'heure c'est l'heure et une assistante de Tim Cook vient et met fin au rendez-vous de manière assez rapide apparemment. Hein. Ils ont à peine le temps de se dire au revoir et c'est fini et il a déjà disparu.
C'est typique d'Apple. Ouais.
Avec un peu de douceur quand même. Mais...
C'est typique d'Apple et des sociétés du j'allais dire du 440, du Nasdaq.
Américain.
Ouais. Oui, du Nasdaq et de la qui sont cotés en bourse, c'est-à-dire que la moindre communication doit être, y compris du numéro 1, doit être validée par le service de presse. Et puis ce truc des conférences, on se balade, et l'Apple Park est là également pour ça, et est important, est fréquemment utilisé par Tim Cook pour ses meetings, et c'est quelque chose qu'affectionnait particulièrement Steve Jobs, quand il était encore là, et donc on va mettre 2 euros chacun dans le petit tirelire.
Notre cagnotte. Bon, il y a un moment très intéressant aussi, c'est ce moment où Tim Cook explique ce qui aboutit au go en fait d'Apple pour lancer un nouveau produit. Alors il le dit comme ça. Il se pose plusieurs questions. D'abord, est-ce qu'on peut apporter une contribution significative d'une quelconque manière par rapport à ce que les autres ne font pas, les autres marques, hein, j'imagine. Est-ce qu'on est propriétaire de la technologie principale? Il explique qu'il n'est pas intéressé à juste assembler des pièces d'un puzzle que quelqu'un d'autre aurait fait, parce qu'ils veulent le contrôle sur la technologie primaire et parce qu'ils savent que c'est ainsi qu'ils vont innover. Donc il y a quand même toujours cette notion de contrôle, quand même, hein, toujours aussi importante.
Oui, on ne gaspille pas les ressources.
François ?
Et la maîtrise de la chaîne de A à Z.
Ouais.
Ou presque, en tout cas, mais de plus en plus. Oui. Enfin, donc avec le même sentiment de vouloir gérer et contrôler le logiciel et le matériel, et tant qu'à faire, aller jusqu'au bout du matériel, donc les processeurs, on en a parlé juste avant, et ne pas dépendre, notamment quand il y a pandémie, de l'arrêt de fabrication d'une usine, d'un tout petit composant qui arrête tout, par exemple.
Ouais, on va rappeler que c'est la grande spécialité de Tim Cook, hein, c'est ce qu'il faisait déjà chez Compaq. C'est pour cette raison que Jobs est allé le débaucher de chez Compaq. Et il connaît par cœur la manière dont ça fonctionne. Donc, c'est sans doute un point qui a encore progressé depuis qu'il est seul aux commandes d'Apple. François, tu voulais ajouter quelque chose ?
Je voulais juste préciser pour les plus jeunes, Compaq, c'est une marque d'informatique qui n'existe plus aujourd'hui. Hein, c'est tout. C'est voilà.
Oui, mais qui faisait la pluie et le beau temps sur le marché du portable, et c'était la pub, c'était Compaq à suivre.
C'est vrai.
Ce qui valait dire, nous sommes le leader. Essayez de faire aussi bien que nous. Il y a un truc très important, c'est qu'il a dit explicitement. Maintenant, chez Apple, l'important, c'est de maîtriser le composant central de manière à pouvoir, non pas avoir la maîtrise, mais ne plus se laisser déborder. Ils ont eu le problème avec le processeur au niveau du G5, qui était fabriqué par IBM. Ils ont été tournés par Microsoft quand ils ont vu le danger potentiel que le PowerPC 970 pouvait représenter pour eux. Ils se sont précipités chez IBM en disant, nous voulons deux puces de PowerPC 970 pour nos Xbox, ce qui fait que Apple, de client vedette, est passé au second plan. Et ça a été la même chose avec Intel, puisque Apple était un peu une affiche de prestige, mais ce qui faisait bouillir la marmite chez Intel, c'était les commandes de HP, les nouveaux Dell, pour qui il fallait également personnaliser les puces pour leur carte mère.
Ouais. Bon, pour résumer, pour conclure, qu'est-ce qui vous a le plus surpris, ou qu'est-ce que vous avez appris que vous ne saviez pas avec ce portrait interview dans GQ sur Tim Cook?
J'ai pas le sentiment d'avoir appris grand chose. Moi, ce qui m'a le plus frappé, c'est j'ai trouvé ça, c'est assez doux, parce que comme tu faisais référence tout à l'heure, hein, donc on se promène dans le parc. Alors je voulais signaler, l'article est disponible en français sur le site de gqmagazine.fr, et donc voilà, il y a des phrases comme ça du style le soleil illumine la vallée, l'ambiance est paisible. Une fois au bord du bassin artificiel, Tim Cook est interrompu par un collègue qui l'invite à prendre congé de moi pour se rendre à sa prochaine une réunion. Voilà en gros comment ça se termine. Alors, il y a un peu de douceur, c'est même presque caricatural, mais en même temps, comparé à d'autres PDG dont on parle à longueur de temps, bah, ça fait du bien. Voilà, ça fait du bien de lire un gars qui a la puissance qu'on sait parce que par rapport à tout un tas de pays, Apple est super puissant et en termes de diplomatie technologico-politique, Tim Cook est un type qui a énormément d'influence. Ouais. En tout cas, dans ce genre d'article-là, mais même ailleurs, il la ramène pas. Ça, je trouve ça vraiment intéressant. Peut-être un petit point de critique justement sur cet article-là en particulier, c'est que bah, c'est vraiment très doux, quoi. Et donc, il y a beaucoup, beaucoup de messages d'Apple sur, notamment, il y a une grande partie sur la défense de la vie privée, etc. Et là, faut, à mon avis, lire ça un peu vite parce qu'il y a beaucoup de critiques à faire sur tout ça qui n'est absolument pas présente dans cet article que je regrette.
Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord.
Gilles, et puis après François.
Alors, pour ce qui est de la critique à faire sur l'utilisation d'Apple par les données personnelles qui sont captées quand on utilise iOS, ça a été mentionné dans l'article. Je ne sais plus où je l'ai vu, j'étais frappé. On en a parlé après l'enregistrement hier. Pour l'enregistrement de la quotidienne, j'avais la sensation d'un portrait extrêmement nuancé. Tu parlais de quelque chose de doux, Fabrice. C'est pas un portrait au flash de face, comme d'habitude. J'ai l'impression d'un portrait extrêmement modelé. Et Tim Cook a un soft power, une façon d'attirer la sympathie, de captiver un peu les gens, beaucoup plus nuancé et tout aussi efficace que celui de Steve Jobs. De 2 euros encore. Qui avait un comment appeler ça, un charisme de rockstar. Tim Cook, apparemment, qui déteste le conflit autant que Jobs, encore 2 euros, fonctionnait en permanence ou presque dans le clash, c'est plutôt le soft power du Dalai Lama, un truc très, très nuancé, très... C'est extrêmement intéressant et le style de management et les exigences de Cook, que ce soit à l'égard de ses collaborateurs ou de lui-même, ne sont pas moindres par rapport à celles de Jobs, mais ça a l'air d'être quelque chose de beaucoup plus vivable chez Apple, ouais, que ça ne pouvait l'être il y a 10 ou 11 ans pour vous faire des économies.
Mais je ne vois pas François, en quoi c'est une contradiction avec ce que j'ai dit avant, cela dit. Ouais.
Non, je suis tout à fait d'accord sur ce plan-là, bah si tu veux. C'est juste le volet sur les données personnelles dans l'article.
François, ton regard, ton sentiment sur cet exercice, cet objet de communication aussi, peut-être?
Ouais, c'est essentiellement un exercice de communication. Et puis moi, pour clôturer, puis éviter de faire trop long, je trouve ça toujours marrant parce que c'est vrai que souvent quand même, quand Tim Cook communique, c'est souvent quand même avec de la presse généraliste et très peu avec de la presse tech. On se souvient du passage sur Click, etc. On sent qu'il n'y a pas une volonté de communiquer avec des spécialistes, mais avec de communiquer auprès du plus grand public. Et donc, potentiellement, là-dessus, je rejoins Fabrice, avoir des questions pas très pointues, ce qui fait qu'on peut rester dans le consensuel et éviter d'aller au fond des choses. Maintenant, c'est toujours intéressant de le voir s'exprimer. Et puis, ça, clairement, c'est une préparation pour ce qui vient après. Maintenant, ouais, le fait de savoir qui se lève tôt le matin pour faire un exercice, ça, on le savait déjà, en fait.
On le savait déjà.
De ce côté-là, on n'apprend pas non plus grand-chose de neuf en dehors de ces allusions au casque et aux lunettes en réalité augmentée.
Ouais, moi, il y a un chiffre que j'avais jamais vu ou alors qui m'avait échappé, c'est les 50 millions d'Apple Watch vendus par an. Ça, c'est un chiffre que j'avais peut-être raté jusqu'à maintenant.
Et j'arrive pas à me dire je vais rebondir sur les Apple Watch, c'est intéressant. J'arrive pas à me dire, je voulais savoir votre avis, si c'est beaucoup ou pas.
Moi, je trouve ça pas beaucoup, je m'attendais à plus.
Ah, c'est énorme, pour des montres,
c'est
je crois,
plus de la moitié du marché déjà, donc
ouais.
C'est quand même conséquent. Comment dire ?
Je crois que de toutes les montres, c'est la montre la plus vendue au monde.
Ah, oui, oui, c'est la plus.
Plus de la moitié.
Et c'est là où je trouve que on parlait du champ de distorsion de réalité autour de Steve Jobs. Et en fait, c'est autour d'Apple, point. C'est ça qui m'a frappé. C'est-à-dire que 50 millions par an, c'est quand même donc un chiffre finalement démesuré. Mais quand on parle des iPhones, c'est 70 ou 80 millions par trimestre. Donc on se dit, oh bah alors 50 millions, c'est tout petit. Sauf que, comme vous venez de le faire, il faut remettre ça en rapport avec le marché que ça concerne. Et c'est donc totalement monumental. C'est-à-dire que Apple fait un truc. C'est là, et c'est ça qu'on va voir aussi avec le casque, c'est que, a priori, notamment si c'est annoncé au prix auquel on s'attend, ce sera pas à 50 millions, ce sera peut-être 1 million, et là, pour le coup, pour Apple, c'est ridicule, minuscule, sachant qu'il y a tout un tas d'entreprises dans le monde entier qui aimeraient bien vendre 1 million d'un truc. Donc, c'est là où j'ai trouvé intéressant que tu remarques ce chiffre-là, parce que ça remet encore en perspective les dimensions phénoménales d'Apple dans toutes les catégories.
Voilà pour cet entretien portrait assez exceptionnel, en tout cas assez rare à découvrir dans le numéro avril-mai 2023 du GQ américain, et donc qu'on peut aussi lire sur le site du GQ français. D'ailleurs, le choix de GQ, ça m'a rappelé la période du lancement de l'Apple Watch, où Apple volontairement visait la presse fashion, quoi. Et GQ, on n'est pas très loin du magazine de l'homme moderne. C'est pas lui, mais c'est GQ aujourd'hui. Allez, on se retrouve dans un instant avec les rumeurs autour des prochains iPhone 15 Pro et Pro Max, de nouveaux boutons qui vont probablement changer un peu nos habitudes. Les iPhone 15 Pro et Pro Max ne seront probablement pas confondables avec les générations précédentes. Alors, de face, on devrait encore pouvoir hésiter. Le Dynamic Island sera probablement encore au rendez-vous, puisque Face ID sous l'écran ne devrait arriver qu'avec la gamme iPhone 17, et là on parle de 2025. En tout cas, ce sont les dernières estimations. Non, pour reconnaître à coup sûr un iPhone 15 Pro ou Pro Max, il faudra le regarder de profil et regarder sa tranche. Alors on parle toujours de titane, mais encore plus visible devrait être la refonte des boutons, boutons de volume, boutons de bascule entre sonnerie et vibreur, et surtout l'arrivée d'une pièce apparue sur l'Apple Watch Ultra, le fameux bouton Action. Alors c'est une rumeur, hein, ce bouton programmable serait géré par son propre microprocesseur. Pourquoi ? Pourquoi faire ? À votre avis, on va en discuter, et je me tourne d'abord vers toi, François, puisque l'Apple Watch Ultra, tu l'as eu, tu l'as toujours, et ce bouton Action, est-ce que tu peux nous rappeler d'abord à quoi il sert, à quoi il ressemble, et ce qu'on fait avec sur une Apple Watch ?
Alors donc, je le rappelle, c'est un gros bouton orange.
Tu peux nous le montrer ?
Présent sur le... Si tu veux, pas de souci. Vous voyez, il est juste là.
Voyez, on ne le voit pas très bien. Tiens, enlève là. Montre-nous un gros plan sur ta webcam. C'est le bouton orange.
Voilà. Vous voyez, donc il est sur la tranche. Donc vous voyez le souci du détail d'Apple quand même. On a une belle petite, un beau petit liseré orange sur la roue crantée, sur la Digital Crown. Et de l'autre côté, nous avons un bouton orange, donc qui nous permet en fait de lancer une action. Alors je vais le faire devant vous, même si ça n'a pas marché parce que la montre est verrouillée. Donc je vais juste faire mon code dans l'autre sens. Et donc du coup, en fait, quand vous allez appuyer sur le bouton, ça va déclencher directement. Tu vois, j'étais sûr que ça allait finir en démo foireuse. Quand vous appuyez dessus, vous voyez, ça lance un exercice. Ça vous montre que j'ai fait un exercice de renforcement traditionnel ce midi. Et si je rappuie dessus pour vous refaire la démo, histoire de faire une démo qui marche, ça déclenche directement l'application exercice et je peux sélectionner un exercice derrière. Donc, c'est pratique. Ça a un inconvénient, c'est que du coup, des fois, quand vous voulez appuyer dessus, vous, mécaniquement, vous avez tendance à appuyer des deux côtés. Donc, voilà, ça peut être un peu dommage.
Moi, qui fais
un peu de sport, c'est vrai que je trouve ça très pratique. Et puis, ça montre que je suis un gros richou et que du coup, j'ai une Apple Watch Ultra, parce qu'il y a un joli bouton en plus, quoi. Donc, tu vois, c'est important pour le standing.
C'est ça. Bon, on la reconnaît sans le bouton Action, hein, l'Apple Watch Ultra. Oui. Parce qu'elle est grosse. Sa masse, son volume. Est-ce que ça a un sens pour vous, mes amis, déjà de revoir les boutons autour de l'iPhone, donc boutons de volume, boutons de bascule entre la sonnerie et le vibreur. Fabrice.
C'est-à-dire que toute la discussion qu'il y a maintenant dans notre petite communauté, c'est de savoir si le bouton vibreur est encore utile. Discussion qui est provoquée par cette rumeur, justement. C'est un bouton, un des boutons mécaniques qui reste. Il y en a qui, alors moi je fais partie de ceux qui ont leur iPhone quasiment tout le temps en mode silencieux, même pas vibreur, il fait ni bruit ni vibration. Donc ce bouton, je m'en sers assez peu.
C'est pratique pour te joindre.
Ah oui, mais c'est ma montre qui vibre, c'est grâce à la montre, justement. Ça fait partie de ça. Il y en a qui, de toute façon, qui n'aiment pas trop que ça fasse du bruit. D'autres qui l'utilisent tout le temps. Mais est-ce que c'est une minorité, une majorité? On ne sait pas. Le fait est qu'avoir... on sent quand même une sorte de volonté globale, pas chez Apple, d'avoir des boutons. D'abord, moins mécaniques, parce que c'est des sources de panne et éventuellement des sources d'entrée d'eau. Et puis, d'avoir quelque chose qui soit peut-être pas monofonction, pour que ce soit un petit peu plus sophistiqué, quoi. Avec la problématique, juste pour celui-là par exemple, ce bouton-là, il est mécanique, il se sent bien sous le doigt, et donc on peut facilement le bouger quand l'iPhone est dans une poche. Est-ce qu'on pourra faire la même chose avec un bouton capacitif? Toute la question est là, et est-ce qu'on ne perdrait pas en côté pratique en voulant être un peu plus sophistiqué?
Ouais, c'est une très bonne question. Moi, justement, je fais souvent un check dans ma poche pour savoir si je suis sur vibreur ou sur sonnerie, et j'ai pas besoin de sortir mon iPhone de ma poche. Je connais ce bouton par cœur et je sais que
oui.
Vers la droite, il est sur sonnerie, vers la gauche, il est sur vibreur. François,
je peux vous confesser quelque chose.
Bah ouais.
En fait, je ne me sers jamais de ce bouton pour la simple et bonne raison. L'Apple Watch,
que mon portable. Voilà, ouais.
Oui, ce que disait Fabrice, ne pêche portable, plus.
Plus jamais en mode sonnerie. Et la montre, elle est jamais en mode sonnerie non plus. Donc c'est pour ça, moi, ce bouton-là, au final, il sert plus à grand-chose non plus. Comme Fabrice, pareil.
Ouais.
Mais c'est intéressant parce qu'il sert pas beaucoup, mais et moi, il me sert de temps en temps. Juste, tu vois, quand j'ai pas la montre, eh bien, je pense à mettre le téléphone en vibreur, jamais en sonnerie, parce que c'est mon choix, mais parce que je sais que j'ai pas la montre. Donc, mais est-ce que j'ai besoin d'un bouton pour ça? Je pense pas. Voilà.
Bon, donc la question peut se poser, mais qu'est-ce que ce bouton action sur un iPhone permettrait de faire concrètement?
Mais c'est d'abord, il faut changer l'interface. Là, ça fait 2023, ça fait 16 ans. Au niveau des interactions physiques avec l'iPhone, ça n'a pas énormément bougé à part le bouton Home qui a disparu. Et puis, ce truc de personnalisation.
Si ça marche bien, pourquoi il faut changer?
Parce que sinon, on passe notre temps à dire « Ouais, ça n'avance pas, il n'innove plus, etc. » Donc, à un moment donné, il faut renouveler la plateforme, sinon elle devient obsolète et les gens s'en détournent. Et puis il y a tout un volet qu'on oublie, c'est les fonctions d'accessibilité et de personnalisation du bouton qui vont être extrêmement utiles à tout un tas de personnes avec des handicaps sensoriels en particulier ou même physiques.
C'est intéressant. Ouais.
Et puis le même pour tout un chacun. Il y a la personnalisation pour telle ou telle tâche qui revient beaucoup plus souvent que pour quelqu'un d'autre. Et donc, soit on multiplie les boutons et on a un truc absolument ingérable, un truc d'ingénieur avec un bouton, une fonction, soit on a un bouton qui est paramétrable, comme on a sur le clavier du Mac depuis le système 5 ou 6, par exemple.
Ouais. Fabrice, je reviens vers toi tout de suite, mais juste une question à l'utilisateur François. Tu peux programmer combien de fonctions différentes sur le bouton action de l'Apple Watch Ultra?
Bah, une.
Ah bon, bah...
Enfin, c'est je crois, libre. Enfin, je sais pas, tu me mets le
je croyais, mais... non, je croyais que tu pouvais faire plein de trucs différents.
Non, non, c'est une, non, non, c'est une.
C'est juste c'est un une, gros bouton choisir, en fait. Ouais, d'accord.
Bah, non, en fait, il y en a deux. Je te dis une bêtise, il y en a deux.
Il y en a deux.
Alors, en fait, tu appuies une fois, c'est. Enfin, moi, c'est programmé comme ça. J'appuie une fois, ça déclenche les activités sportives et j'appuie longtemps, ça le permet de couper la montre. Mmh. Mais. Eh ben, tu vois, tu me poses une colle, donc je m'en vais de ce pas. Tu peux interroger Fabrice, je vais regarder dans le paramétrage.
Mmh, d'accord. Alors, Fabrice, je me tourne vers toi pendant que François se renseigne sur sa propre montre. Je t'écoute. Par rapport à l'obligation de changer. L'interface des boutons.
Ben, plusieurs réflexions. C'est vrai que moi, je serais déçu qu'on fasse du changement pour du changement, pour répondre à des gens qui se plaignent que ça change pas suffisamment. Moi, je fais un lien entre ça et aussi, comme je le dis souvent, donc je l'ai déjà dit aujourd'hui, faire durer ces appareils, etc. On n'a pas besoin de changer tout le temps. À ce titre, par exemple, moi, je considère que Apple a fait une erreur il y a des années de ça, en enlevant le bouton des iPads qui permettait soit justement d'éviter que l'écran pivote, où on pouvait au choix justement faire la rotation de l'écran ou autre chose, j'ai déjà oublié, ou peut-être le son,
mettre
justement,
en silencieux.
Le son, ouais, mettre en silencieux, ouais. Voilà. Et donc aujourd'hui, il est plus difficile de changer la rotation d'un iPad qu'avant quand on avait le bouton. Et c'est terrifiant. Et c'est ça qui me fait peur, justement, dans un bouton, entre guillemets, je vais dire, pour qu'on comprenne, un bouton logiciel. La gestion de la rotation de l'écran de l'iPad aujourd'hui, c'est terrible. Parce qu'en plus, le centre de contrôle ne pivote pas. Donc, il faut l'ouvrir deux fois. Pour désactiver, pour activer la possibilité de rotation, fermer le centre de contrôle, tourner l'iPad, rouvrir le centre de contrôle et verrouiller la rotation. Donc c'est terrifiant, c'est nul quoi en termes justement d'ergonomie. Dans le cas d'un bouton action, François le faisait remarquer, les boutons qui sont en opposition, c'est déjà le cas sur les iPhones quand le bouton de marche arrêt est passé du sommet du téléphone sur le côté. Passe mon temps avec un bouton comme ça à prendre une capture d'écran pendant que je change le volume. En termes d'ergonomie, c'est nul. Donc c'est pour ça que moi j'ai très peur de ça, du changement pour le changement et pour dire regardez c'est beau, c'est moderne, avec en plus un microprocesseur en plus, etc. pour des trucs qui sont déjà super chers. Je vois pas l'intérêt et en termes d'ergonomie, je comprends pas. Donc je ne demande qu'à être convaincu, mais j'ai très peur.
Alors, au fil des derniers jours, on a eu plusieurs rumeurs qui se sont additionnées et qui font qu'on a aujourd'hui une vue un peu plus claire de ce qui se profile peut-être. Mais on a d'abord parlé du remplacement des boutons de volume, donc il y en a deux hein, aujourd'hui, par un seul bouton unifié qui sera un bouton capacitif, donc qui serait capable de ressentir la force qu'on applique dessus et donc pour... augmenter ou diminuer le volume de manière plus ou moins rapide. Et puis on a aussi dit que ce bouton pourrait être un bouton presque tactile et en gros en faisant un geste vers le haut ou vers le bas le long du bouton, on augmenterait ou on diminuerait le volume. Est-ce qu'on parle du même bouton que le bouton action ou est-ce qu'on parle de deux choses différentes à votre avis?
À mon avis, il y en a deux. En fait, il va y avoir la partie bouton baisse volume, on monte le volume, et puis la partie mise en silencieux. Ça paraît très logique qu'il revoie tout le bloc. Maintenant, moi, je vais juste faire un petit retour en arrière. Vous vous souvenez, sur les iPhone 6S, on avait eu le fameux bouton, là, j'ai bouffé c'était pas 3D Touch, c'était... vous savez, il y avait un retour haptique dessus, je sais pas si vous vous souvenez.
Pas du tout.
Vous vous souvenez
pas. Dire sur le bouton de Touch ID.
Home. Ouais.
Oui, bien sûr, oui. C'est ce que j'utilise toujours.
Force Touch.
Ouais. Mais il l'avait Force Touch, c'est ça. Mais il l'avait enlevé après. C'était devenu logiciel seulement. C'était plus une pièce physique.
Ah oui, c'est-à-dire que le bouton Home est devenu un bouton à retour haptique, alors qu'avant, c'était un bouton qui s'enfonçait véritablement, ouais. Bien sûr,
mais du coup, il y avait un vrai retour et ils ont fait un petit rétro-pédalage. C'est pour ça que je suis curieux de voir. Honnêtement, je viens de vérifier. Hein, du coup, je vous confirme, c'est qu'une action Et la deuxième action, c'est bouton long, vous pouvez déclencher la sirène si vous maintenez le bouton enfoncé. Donc c'est bien, c'est pratique, ça peut réveiller vos voisins. Donc maintenant, je rejoins Fabrice, il faut vraiment voir l'usage, quoi. Et il va y avoir un gros travail de regarder à quoi ça sert, regarder comment ça marche, et les utilisateurs vont surtout devoir s'habituer à autre chose. Et si c'est pas logique, ça va être très compliqué.
Donc si je comprends bien, ce bouton action qui doit remplacer la bascule vibreur sonnerie, on pourra lui affecter a priori qu'une seule action si c'est comme sur l'Apple Watch Ultra, c'est ça?
Il y a un appui long et un appui court, quoi. Donc ça fait deux actions.
On peut penser à raccourcis, hein. Ça peut aussi, on pourrait déclencher des raccourcis. Alors là, pour le coup, ça peut être un truc, quelque chose qu'on fait souvent et qui demande plusieurs actions. Alors ça déclencherait une avalanche d'actions. Pourquoi pas?
Est-ce que tout ça justifie que ce bouton soit, si j'ai bien compris, géré par son propre processeur? C'est un peu une usine à gaz, non, pour appuyer une fois sur un bouton, non? Non.
Justement, c'est ça plaide plutôt dans le sens d'une une multiplicité ou plutôt de plusieurs actions ou d'actions plus fines et dosées avec un retour haptique éventuel. C'est peut-être pour ça qu'il y a un processeur justement qui est dédié. Encore une fois, on est en train de tirer des conjectures sur le sexe des gens, des anges là. Donc il faut attendre les rumeurs supplémentaires ultérieures qui vont venir et qui vont vraisemblablement donner davantage de détails sur cette fonction. Il reste encore 6 mois jusqu'à la sortie de l'iPhone 15.
Mais quand même, est-ce que vous avez le même sentiment que moi? C'est-à-dire que plus les semaines passent, plus on est en train d'allonger la liste, non seulement des fonctions qui seront propres au modèle Pro et Pro Max qu'on n'aura pas sur les deux modèles de base, et aussi qui vont marquer une évolution visible. Dans ce cas, par rapport à la gamme 14 et aux gammes précédentes. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'Apple essaye de plus en plus de tout faire pour que la gamme iPhone 15 et notamment les modèles Pro et Pro Max, on voit tout de suite qu'on a un 15 Pro, quoi.
Ah bah, il faut peser dans le game, mon grand.
C'est ça? Mais c'est ça?
Ah non, mais ouais, après, il faut justifier aussi ces tarifs qui augmentent au fur et à mesure et l'écart qui se creuse plus ou moins entre la gamme classique et la gamme pro sur le schéma de ce qu'on peut avoir sur les iPads. Hein. Regardez le prix d'un iPad 10, on le décrit beaucoup, mais quand on compare un iPad 10 avec un iPad Pro, je sais pas, de tête, je vous dirais qu'il y a peut-être 500-600 euros d'écart. Hein, donc peut-être qu'à un moment, on arrivera à un écart aussi important entre les iPhone 10 classiques et les iPhone Pro.
Ouais.
Il y a quelque chose aussi, c'est que c'est sans doute de la faute d'Apple, hein, qui a ouvert le tube de dentifrice et il a commencé à couler. On pourra plus faire rentrer le dentifrice dedans. Ils ont commencé à mettre l'accent sur l'iPhone Pro, et l'ensemble de ses concurrents sont mis à sortir des smartphones Pro et s'empiller comme tel, à mettre de l'argent et des fonctionnalités dedans et à gagner des parts de marché. C'est le cas de Samsung sur ses smartphones à plus de 1000 dollars. Donc maintenant que la course est lancée, il faut la jouer, quoi. Ils peuvent pas s'arrêter et dire bon, on revient en arrière.
Ouais. Alors deux points importants. D'abord, la rumeur dit que ces nouveaux boutons capacitifs marcheront y compris avec des gants. Alors on se posait la question dans la quotidienne avec toi, Fabrice, de savoir si ça devait pas être quand même des gants spéciaux, les fameux gants qui sont conducteurs comme pour l'écran tactile. Ouais. Donc là c'est un point quand même qui reste en suspens. Et puis l'autre rumeur qui pour le coup est assez intéressante dit que même quand l'iPhone sera soit éteint soit à court de batterie, grâce, si j'ai bien compris, à ces nouveaux boutons, au processeur qui est associé, on pourra continuer à utiliser certaines fonctions. Ça pourrait être notamment le cas d'Apple Pay et de des fonctions qui permettent, par exemple, de déverrouiller une serrure de porte ou de chambre d'hôtel, même si on n'a plus de batterie principale dans son iPhone. Est-ce que ça fait sens pour vous, au-delà de l'intérêt qu'on imagine, hein?
Il y a un équivalent là dans l'iPhone ou dans la montre. Je veux pas dire de bêtises, mais
c'est l'économie d'énergie. Il reste de la batterie et t'as juste l'heure. Mais là, du coup, si c'est Apple Pay ou autre, il faut de l'authentification à un moment quand même.
Bah oui.
Enfin, je comprends pas la logique du truc s'il y a plus de batterie.
Il peut y avoir une réserve à part qui est uniquement consacrée à ce type de fonction avec une optimisation sur la puce UW, je crois, c'est la puce de communication.
De ce que j'ai compris, le processeur associé au bouton aurait encore de l'énergie pour prendre la main sur certaines fonctions, en fait.
Ça, je trouve que ça a du sens si c'est pas uniquement, c'est pas que pour faire fonctionner le vibrato du bouton. Si c'est pour justement, moi ça me fait penser à la discussion qu'on avait eue à propos de la carte d'identité numérique. C'est-à-dire que à partir du moment où on commence à mettre tout sur son smartphone, il faut que pour ce genre de fonction ça marche à tous les coups. Donc il y a une histoire de fiabilité et aussi qu'on ne risque pas trop d'être coincé si justement on n'a plus de batterie. Mais donc pour ouvrir une porte, pour passer le portillon du métro, donc c'est peut-être ça. Peut-être que là on n'a peut-être pas encore toutes les infos. Moi je verrais ça plutôt ça comme ça, où on aurait une fonction de d'utilisation minimum de la batterie sans allumer l'écran pour payer, pour passer le métro, pour ouvrir une porte d'hôtel ou une porte de chez soi, qui permettrait, même si la batterie est donc entre guillemets vide, que ça marche encore plusieurs jours, par exemple, simplement pour faire ça. Ça ce serait intéressant. Et j'espère que c'est ça, parce que ça me paraît absolument indispensable d'avoir ce genre de choses-là pour qu'on ait quelque chose qui fonctionne plusieurs jours, même sans batterie, entre guillemets, donc.
Bon, on va suivre évidemment les rumeurs sur ces iPhone 15 Pro, Pro Max. On est encore à presque 6 mois de la keynote du mois de septembre. Donc, effectivement, Gilles, je pense qu'on aura d'autres bruits de couloir. D'ici là, Gilles, tu ne bouges pas, parce que dans quelques instants, c'est l'heure de ta mise au point dans iWeek, la semaine Apple, le podcast. La mise au point de Gilles Dounès. Gilles, cette semaine, tu t'intéresses au marché européen du PC et de la tablette pour le dernier trimestre 2022. Alors, de quoi est-ce qu'on parle exactement ?
Effectivement, Benjamin, le marché européen de l'Europe de l'Ouest, ce sont trois pays. Le Royaume-Uni, la France et l'Allemagne. Et la catégorie marché du PC, qui est étudiée par les cabinets d'analyse depuis des années, n'est pas vraiment taillée sur mesure pour Apple, puisqu'elle comprend les PC de bureau, les portables et les serveurs. Ça explique aussi pourquoi Apple a longtemps été aussi minoré, ou tant de mal à exister dans les bulletins trimestriels. Et les tablettes, ce sont les écrans sans clavier, qui vont aussi bien du Kindle jusqu'à l'iPad Pro, en passant par tout ce qui se fait à base de robots hyperglycémiques.
Ouais. Je suppose que tu veux parler d'Android, Gilles. Et donc, qu'est-ce qu'il y a de particulier sur le marché européen ?
C'est un peu comme si les gens s'étaient offerts du corned beef ou de la dinde en gelée au lieu de s'acheter des ordinateurs à Noël. Canalys a rendu une copie et le marché a connu un véritable trou d'air en perdant 38,5% par rapport au trimestre de Noël de l'année précédente. C'est avec énorme. Avec à peine 10,7 millions d'unités. Ce sont les portables qui ont pris le plus cher, avec 40% de chute, toujours par rapport à l'année dernière. Et les ordinateurs de bureau ne sont pas en reste, avec tout de même 29% de baisse. Pour ce qui est du marché des tablettes, la baisse est moins importante, puisqu'elle représente 16,5% du marché avec 6,5 millions d'unités. Pour l'ensemble de l'année 2022, on a une baisse de 21% pour les ordinateurs et 18% pour les tablettes.
Ouais, je trouve ça assez, assez énorme. Alors comment est-ce que Apple s'en sort ?
Apple aussi a pris l'autobus de face, puisque d'une année sur l'autre, ils ont livré 22,8% d'ordinateurs en moins, et même 39% en séquentiel, c'est-à-dire du troisième au quatrième trimestre, alors que normalement, on a une hausse très importante à ce moment-là, du troisième vers le quatrième. Mais Apple a quand même de quoi se consoler, puisqu'il reste quatrième derrière Lenovo, HP et Dell. Ils gagnent même des parts de marché, puisqu'ils sont passés de 10,5% à 13,2%, et sur la totalité de l'année 2022, il limite aussi la casse en perdant 5,3% sur un marché global qui baisse de 20,5%. Donc il passe de 10,3% à 12,2% de part de marché, toujours à la quatrième place.
Et en ce qui concerne les tablettes, Gilles ?
On l'a dit, le marché dans son ensemble perd 16,5% dans ce fameux trimestre de Noël. Mais comme Apple reste absolument stable, il gagne des parts de marché en passant de 43,3 à 51,8. Il repasse la barre des 50. Ils adorent ça. Mais attention, Samsung progresse de 16,3% et ce sont les seuls à progresser. Et d'une paire de coups, ils passent de 15,3 à 21,3% de parts de marché. C'est vraiment à surveiller. Ce qui est intéressant, c'est que si l'on en croit qu'Analys, c'est le lancement de l'iPad 10, l'iPad de 10e génération, qui est plutôt le mal-aimé de la gamme, qui a contribué à faire progresser la position de la marque. Pour autant, en année complète, Apple a perdu pratiquement 17%. Il passe de 43 à 44,1% de part de marché. Mais Samsung gagne 5,5% sur l'année et il passe de 16% de part de marché à 20,4%. La baisse de 18,4% générale est valable pour tout le monde. Donc Apple n'a absolument pas intérêt à s'endormir sur ses lauriers, sur des marges confortables. La prochaine gamme de l'iPad aura intérêt à être attractive.
Et en ce qui concerne la gamme Mac, Gilles ?
Apple avait dû charger les canaux de distribution avec des MacBook Air M2 juste avant les annonces de sortie, mais pas de MacBook Pro. On comprend mieux, dès lors, les rumeurs d'arrêt de la puce M2, on en a parlé tout à l'heure. Pour les deux premiers mois qui ont suivi ce quatrième trimestre 2022, on sait combien Apple déteste les stocks. Ils ont donc vécu sur leur réserve de composants tout ce qu'ils avaient pu accumuler jusque-là. Puisque Tim Cook aime à dire qu'il se sent obligé à la créativité. C'est ce qu'on a vu dans l'interview dont on a parlé. Comme tout un chacun chez Apple, il va falloir qu'il prouve sur le secteur du Mac, y compris en termes de tarification. On en a parlé également.
Merci Gilles pour ce point très complet sur ce dernier trimestre 2022. On respire 3 secondes et on se retrouve pour partager avec vous nos coups de cœur et nos cartons de la semaine. Carton rouge, carton jaune, ou mieux, hein, on le reconnaît, coup de cœur à partager avec vous. C'est maintenant dans iWeek. Fabrice, je crois que tu as vu tout rouge, toi.
J'ai vu tout rouge à cause de General Motors, grand fabricant de voitures américain, qui a annoncé, ou sur le point d'annoncer, en tout cas, il y a eu plusieurs articles sur le sujet, que ces voitures électriques ne seraient pas équipées ni de CarPlay ni d'Android Auto, qu'ils utiliseraient la plateforme de Google qui s'appelle Google Automotive. Donc, ne pas confondre avec Android Auto, hein. C'est vraiment Google Automotive, c'est une couche basse comme QNX dans beaucoup de voitures pour gérer les fonctions de base, notamment tout ce qui est affichage de la vitesse, etc. Et puis, pourquoi pas, du système de multimédia.
Et donc, en gros, eux, ils disent, mais nous, on sait très bien faire ça dans les voitures. Déjà, rien que ça, ça me fait tousser. Et on n'a pas besoin de laisser ça à Apple ou à Google. Et donc, pas de CarPlay et pas d'Android Auto. On aura un écran. Vous rassurez-vous, vous pourrez écouter votre musique. On aura des applications aussi pour écouter. Genre, ils ont parlé de Spotify. Alors, c'est bien. Mais donc, et Apple Music là-dedans, bah, on n'en sait rien. Et puis, il semble qu'ils veulent aussi faire quelque chose comme ce système-là, donc maison, on ne peut pas faire autre chose, c'est gratuit pendant 8 ans, et après, on ne sait pas. Donc visiblement, c'est aussi pour ouvrir la voie à un système d'abonnement pour avoir des fonctions supplémentaires. Alors, on avait déjà parlé dans un bonus, en fait, parce qu'il y a Mercedes et BMW qui ont annoncé ce genre de choses-là, d'avoir des options payante mensuellement pour les sièges chauffants, etc. etc. Je comprends la démarche. Moi je comprends la démarche parce que on sait bien que les véhicules électriques, notamment, hein, c'est de ça dont on parle, ont beaucoup moins besoin de maintenance. Donc ça change beaucoup le business model de tous ces constructeurs qui reposent sur la vente, mais aussi sur la maintenance, et on les ramène pour faire la vidange. Et voilà. Et sur un véhicule électrique, y a pas de vidange. Donc il faut trouver un autre business model et donc trouver des options payantes, pourquoi pas. En revanche, quand ça se fait quand ça implique, du coup, ça enlève des fonctions qui existent déjà depuis longtemps sur des voitures et qui sont appréciées de tout un tas de gens, parce qu'on rappelle que c'est Apple qui avait sorti ce chiffre-là. En gros, près de 80% des gens considèrent que CarPlay est un aspect important dans le choix de leur voiture. Donc, si ça s'avère, effectivement, aux États-Unis, demande à Ellie, exactement. Si j'avais acheté une voiture aux États-Unis, j'achèterais pas des marques qui viennent de General Motors, notamment à cause de ça. Mais mon coup de sang, du coup, c'est que s'ils le font, peut-être qu'il y en a d'autres qui vont s'embarquer derrière. Donc j'espère que non, quoi, parce que c'est complètement stupide de vouloir bloquer. Et on parle d'Apple avec son jardin fermé, mais alors là, ils s'enferment tout seuls. Et qui s'enferme et qui jette la clé, on n'ira pas chez eux. Voilà.
Je t'en souhaite beaucoup de plaisir, vu les parts de marché de l'iPhone aux États-Unis, quoi.
C'est ça.
Et puis, surtout, c'est histoire de se claquemurer, comme tu disais, avant l'arrivée éventuelle d'un concurrent potentiel, comme peut l'être, pourrait l'être Apple, avec sa voiture.
On reste avec toi, Fabrice, que tu as aussi un coup de cœur.
Un petit coup de cœur rapide. Alors, à propos de Tetris, pas encore du film, parce que je n'ai pas encore vu le film qui est donc disponible sur Apple TV+. On en a parlé dans La Quotidienne avec Taron Egerton. Peut-être que certains d'entre vous l'ont vu. Il paraît que c'est bien, donc j'ai très envie de le voir. Et voilà. Mais du coup, je pense que comme beaucoup de gens, le mot Tetris revient. Alors, quand j'ai été jeune, moi, j'y ai joué. Je me suis dit, tiens, je vais aller regarder s'il n'y a pas
un jeu de Tetris. Mais tu es encore très jeune, Fabrice. Tu es encore
très jeune. vous êtes charmant. Et du coup, je suis allé regarder sur l'App Store. Et en fait, c'est rigolo. Il y a un jeu de Tetris officiel, en fait, avec une photo du film aussi. Donc c'est vraiment il y a une sorte de campagne jumelée, comme disait Coluche à l'époque, pour d'autres produits. Et donc là, il y a campagne jumelée autour de Tetris, et donc vous pouvez chercher l'application Tetris sur l'iPhone.
Il est payant ou gratuit?
Et qui est gratuit, voilà. Et j'ai commencé à jouer un petit peu, et c'est rigolo de jouer Tetris, ou rejouer à Tetris avec l'application officielle.
C'est voilà. Tetris, yes. Et
on rappelle pour l'anecdote que le créateur russe de Tetris n'a jamais touché un rouble pour ça.
Ouais. Et justement, alors moi je prends la main avant de la passer à François et Gilles si vous avez des coups de cœur, mais moi j'ai regardé le film ce week-end. Et j'ai trouvé ça très, très chouette. Alors, très honnêtement, je voudrais me renseigner sur la réalité des faits presque historiques, parce que tout ça se passe vraiment à la chute de l'URSS, sous Gorbatchev, mais le mur de Berlin tombe pendant le film, etc. Et l'histoire est dingue. C'est-à-dire que c'est un vrai roman. Le KGB est là pendant tout le film. C'est l'histoire d'un homme qui, au bord de la faillite perso, qui surhypothèque sa maison pour pouvoir essayer d'acquérir les droits de ce jeu dont il a sur lequel il est tombé un peu par hasard au CES, d'ailleurs, à Las Vegas, c'était marrant, dans le film. Et ça se passe avec des allers-retours entre les US, la Russie. C'est un vrai thriller avec Taron Egerton, qu'on adore, je sais, tous les deux, Fabrice, qu'on avait découvert dans Kingsman, puis après dans Rocketman. Mmh. Et c'est un très bon film. C'est-à-dire que les gens qui se disent « Bon, non, Tetris, ça m'intéresse pas, c'est pour les mômes, machin. » En fait, c'est un vrai bon film. Et moi, j'ai passé 1h40, vraiment top. Je vous le conseille, donc, Tetris, le film sur Apple TV+.
Et à toi aussi, Fabrice. En t'entendant, je trouve qu'ils ont raté le titre. Après Kingsman et Rocketman, ça aurait dû être Tetrisman.
C'est ça. François, est-ce que tu as un coup de cœur ou un coup de gueule ?
Non, moi j'ai un mini carton jaune juste pour vous faire marrer. J'ai eu un bug avec ma chère voiture, ma Tesla Model 3, le week-end dernier. Enfin, ça fait une semaine et demie déjà, en fait, en partant de la maison, j'avais 300 km à faire. Et j'ai eu une caméra qui a été inopérante. Et donc ça, c'est très chiant parce que du coup, je n'ai pas pu activer l'autopilot ni le régulateur de vitesse parce que chez Tesla, quand il y a une caméra qui ne fonctionne plus, en l'occurrence, c'était la caméra latérale, enfin la caméra gauche côté conducteur, et bah du coup, pas de régulateur. Donc je me suis tapé 300 km sans régulateur de vitesse et avec une voiture qui a la patate, croyez-moi. Et bah c'est très compliqué parce que du coup, il faut sans arrêt regarder le compteur de vitesse pour vérifier qu'on ne dépasse pas la limitation. Et donc du coup j'ai essayé de régler le problème, et pour régler le problème j'ai fait un chat avec Tesla, et juste pour vous faire marrer, j'ai eu l'impression d'être avec la hotline Orange. C'est à dire que la première chose qu'ils m'ont demandé, c'est est-ce que vous avez pensé à rebooter la voiture. Et c'est un côté très très con. C'est à dire qu'il faut appuyer sur les deux boutons de part et d'autre du volant et compter 10 secondes et attendre que la voiture redémarre. Alors, quand je dis la voiture, c'est en fait carrément le processeur, en fait, l'ordinateur de bord. Donc, du coup, l'écran redémarre. Il y a le joli logo Tesla et puis ça reboot. Donc, je l'ai essayé 2-3 fois, ça fonctionnait pas. Donc, du coup, ils m'ont dit, bon, bah, ça veut dire intervention en garage. Sauf que, bah, moi, j'ai quasiment 120 km à faire pour aller chez le concessionnaire, enfin chez le garage, l'atelier Tesla le plus proche. Donc, j'étais pas très, très motivé. Et puis, bah, sans trop savoir pourquoi, je l'ai réessayé une dernière fois et ça a marché. Sauf que, alors pour ceux qui n'ont pas l'image, on vient de perdre notre ami Benjamin qui vient de télécharger Tetris et qui va jouer à Tetris. Dis tout de suite si ce que je dis ça t'intéresse pas, hein, auquel cas moi j'arrête pas. Hein,
je t'écoute, excuse-moi, hein, je bosse.
Tu pourrais nous mettre le petit jingle en utilisant ton bouton latéral gauche, tu sais, qui va devenir tactile bientôt. Tout.
Vas-y, tu peux parler sur la musique de Tetris, vas-y.
Et le problème s'est résolu. Et le problème, c'est reproduit. Donc, régulièrement, je suis obligé de faire un hard reboot de ma voiture pour que les caméras refonctionnent. Voilà.
Tu peux le faire en roulant ?
Je sais pas si... Alors, non, tu le fais à l'arrêt. Ils te disent de le faire quand tu es en mode parking. Mais pour la blague, quand je l'ai récupéré, en fait, j'ai fait 20 bornes avec et j'étais sur la 4 voies à 110. Première fois que je roulais avec ma Tesla. Et puis, bah, l'écran, il m'a fait un hard reboot. C'est-à-dire que tout d'un coup, l'écran est devenu tout noir. La voiture continue à rouler, mais t'avais plus aucune information. Tu savais pas à quelle vitesse t'étais. Rien que dalle. C'est très pratique. Je suis désolé, monsieur l'agent. Ma voiture, elle avait rebooté. Du coup, je voyais pas que j'étais à 200 km/h sur la 4 voies. Je suis désolé, monsieur l'agent. J'y suis vraiment pour rien.
Voilà. C'est pas très rassurant ce que tu racontes.
Il y a même pas de bruit pour savoir à quel régime tu es en plus.
Ah non, ça, je te confirme. Ben bref. Voilà. Donc, vous savez que maintenant, vous pouvez faire des hard reboots sur les Tesla aussi. Mais ça... Alors, Eli serait là, il me dirait, bah oui, j'ai l'habitude de le faire sur ma Model S, mais voilà, moi, j'ai découvert ça cette semaine.
N'est pas Eli qui veut. Gilles, est-ce que tu as un coup de cœur ou un carton ?
Je voulais revenir sur ce que j'ai dit il y a 2 semaines et mon histoire de... J'ai la sensation... J'ai la sensation d'avoir été peut-être un peu dur. Donc il sort demain. Allez le voir.
Le cheval,
parle de quoi ? Faites-vous une idée. Pas le cheval. Il y en a plein des chevaux. Allez voir les trois mousquetaires.
Ah.
Et faites-vous une idée. C'est pas du tout ce qu'on a l'habitude de voir les films d'époque traditionnellement en France. C'est plutôt fait pour ça louche du côté de Netflix. C'est bien fait, il y a des sous, ça se voit à l'écran. des acteurs qui sont excellents, mais ça n'a plus grand-chose à voir avec le roman, je vous l'ai dit, et ils ont pioché un petit peu du côté des Pardaillans, si vous connaissez. Lisez Les Pardaillans, ça m'a donné envie de lire la suite des Trois Mousquetaires, relire 20 ans après, qui m'avait brisé le cœur quand j'étais enfant, et peut-être Le Vicomte de Bragelonne, qui est en le dernier volume.
Eh bien, merci Gilles, merci mes amis pour ces coups de cœur, ces cartons. Je crois qu'on va tourner la dernière page de cet épisode 131. Merci pour votre fidélité, votre grande fidélité à iWeek, la semaine Apple, le podcast de référence sur Apple, son écosystème et leur actualité. Un podcast indépendant, on vous le rappelle, disponible gratuitement sur toutes les plateformes de podcast. Je le rappelle parce qu'on n'est absolument pas financé par Apple et ça mérite qu'on le redise de temps en temps. Notre carburant, c'est la passion et le plaisir à la partager avec vous. Alors c'est vrai, iWeekly Hebdo, comme la quotidienne, représente du boulot et du temps. Alors si vous voulez nous aider, nous remercier et faire en sorte que cette aventure continue et se développe, eh bien, je vous encourage à rejoindre notre communauté sur patreon.com/iWeek. On est d'ailleurs en train de travailler dur sur des projets déjà évoqués ici et qui vont renforcer nos liens avec vous. On a hâte d'être prêts pour pouvoir vous en parler. Dans tous les cas, on se retrouve dès demain avec la quotidienne iWeek et la semaine prochaine pour le numéro 132 de la semaine Apple. Salut les copains, salut Gilles Donnès.
Salut Benjamin Vincent. Au revoir.
Merci
les amis
d'avoir été là et à très vite.
Oui, c'est avec beaucoup de plaisir, j'espère la semaine prochaine, 11 avril.
Avec grand plaisir, Gilles G. Donnès sur Twitter. Salut Fabrice Neumann.
Salut mon capitaine, salut à tous.
Toi tu es sur Twitter et sur Mastodon.
Et sur Mastodon, toujours avec Fabrice Neumann, tout attaché. Viendez sur Mastodon, c'est chouette Mastodon. Il y a une belle ambiance sur Mastodon, ça repose un peu.
Moi aussi, j'y suis sur Mastodon.
Ah bon, c'est quoi ton adresse, Gilles?
Tout pareil, tout comme, @gdoun.
D'accord.
Ouais.
D'accord, G-D-O-U-N-E-S. Bon, à propos de Mastodon, moi, je fais une bise à Clémence qui m'a envoyé à moi un message. Voilà, donc je lui fais, moi, un petit bisou. Salut François Letruédic.
Salut Benjamin Vincent, salut mes chers amis. Et moi aussi, je suis sur Mastodon, j'ai créé un compte il y a 6 mois et j'y suis jamais retourné, donc il va peut-être falloir que je m'y penche.
Bah écoute, retrouve-le pour la prochaine fois et on le donnera dans le podcast. On embrasse aussi Elia Bitbol, à qui on souhaite une bonne fête de Pessard. Suivez-nous sur les réseaux, donc Twitter @iWeekNews, Instagram @iWeek.news, Mastodon @iWeekNews, @mastodon.world. N'oubliez pas la version vidéo dès jeudi sans pub sur Patreon et à partir de dimanche sur YouTube. Pensez à nous mettre une note 5 étoiles sur Apple Podcast et à laisser un avis, c'est hyper important pour nous faire connaître. Prenez bien soin de vous, parlez d'iWeek autour de vous, vous êtes nos meilleurs ambassadeurs. Bonne soirée, très belle semaine et à la semaine prochaine, mercredi, jeudi. Salut à tous, bye bye.
À la semaine prochaine. Bye bye. Bye.